Bonjour et bienvenue à l'art d'être humain, votre complice pour comprendre et embrasser la complexité, la beauté et les défis d'être humain. De la salle de réunion au salon familial, dans votre relation avec vous-même et avec les autres. Car vous le savez, l'expérience humaine est remplie de défis et à la fois immensément belle. Être humain, c'est être capable de tenir ces deux vérités à la fois. C'est embrasser cette complexité et c'est tout un art. Je suis Pascale Dufresne et à chaque épisode où se mélangent la science et l'art du développement humain, j'explore avec vous une question sous des angles nouveaux et révélateurs, car je marche cette route d'exploratrice avec vous à partir de ma propre expérience.
J'aurais voulu être un artiste.
Comment ne pas vous mettre cette chanson pour ce premier épisode de l'art d'être humain 2026, puisqu'aujourd'hui, nous allons aborder le sujet suivant. Pourquoi, des fois, souvent, on oppose l'art et les affaires? En fait, je ne savais pas comment débuter l'année avec vous, et puis hier, j'ai eu une rencontre avec un directeur général, et qui me disait qu'il a repris la batterie après 20 ans d'arrêt. Ça m'a fait penser à un autre, un directeur dans un parcours de développement corporatif qui m'avait confié presque en chuchotant, parce qu'il n'en parlait pas au bureau. Il chantait, il joue de la basse. Je suis allée le voir en spectacle, du jazz, il était incroyable. Aussi, ça m'a fait penser à Jonathan, un de nos leaders de la communauté leader humaniste, qui a un band avec sa fille, qui nous a fait danser lors d'une soirée de célébration pour le passage à la retraite de mon associé Chantal. Je suis allée aussi avant les fêtes dans un micro ouvert où des gens d'affaires parlaient de leur mission par des textes créatifs, des slams, de la poésie, et il y en a tant d'autres. Le pianiste devenu consultant, la chanteuse devenue journaliste. Et de un moment, je vois aussi beaucoup l'inverse, comme mon ami entrepreneur et coach devenu poète. Peut-être que vous en connaissez. Peut-être que c'est vous. Cette partie de vous que vous avez mise de côté. Peut-être par pression familiale, par honte, parce que ce n'est pas sérieux, parce qu'il faut choisir. Et pourtant... quand ces leaders dont je vous parle se réconcilient avec leur art enfoui, ils deviennent de meilleurs leaders, plus intuitifs, plus humains, plus entiers. Je vous parle de ça un petit peu plus tard. Alors, aujourd'hui, pour débuter cette année, j'ai compris ce que je voulais vous déposer comme question. Ça parle de l'art d'être humain, littéralement. Parce que certains d'entre vous peut-être se rappellent qu'il y a quelques années, cette infolettre s'appelait simplement « Être humain ». Puis, doucement, trois lettres se sont glissées au début. A, R, T, l'art d'être humain. Comme l'art s'est glissé dans ma vie, dans ma manière de travailler, dans ma manière de penser le leadership, dans ma manière d'habiter le monde, l'art et la science du leadership, pas l'un ou l'autre, les deux ensemble, entrelacés. Alors, la question que je dépose aujourd'hui, comment serait le monde des affaires? Nos organisations, si on laissait de la place à notre artiste intérieur, si on laissait plus de place à la beauté. Avant de commencer à explorer cette question, je voulais vous parler un peu de l'artiste en moi. Il faut savoir qu'à 3 ans, j'ai débuté le violon. Je tenais un violon qui était presque plus grand que moi. Et à l'adolescence, j'ai posé ma candidature au conservatoire de musique. Je pensais que mes parents seraient fiers. Mais là, d'où je viens, la musique, c'est un passe-temps. Alors, j'ai rangé mon côté artistique dans une boîte, juste à côté de mes rêves. J'ai mis mon costume de femme d'affaires. J'ai laissé la musique dans le garde-robe. Le travail d'un côté, l'art de l'autre. Mais saviez-vous qu'à certaines époques et dans certaines cultures du monde, l'art et le travail n'ont jamais été séparés? Le potier, Le tisserand, le griot, le moine zen, le conteur, tous créaient pour vivre et vivaient pour créer. Il n'y avait pas d'artistes d'un côté et des travailleurs de l'autre. Il y avait juste des humains qui faisaient de belles choses. Et puis, à quelque part, entre Léonard de Vinci et la machine à vapeur, l'Occident a mis des murs là où il y avait des ponts. On a confiné la beauté au musée et on s'est mis à produire sans créer. On peut cacher l'art, mais on ne peut pas le faire taire. Il finit toujours par chanter à travers nous. Comme moi aujourd'hui, je crée. Autrement, je crée. Parfois, je dessine sur ma tablette entre deux séances de coaching. J'écris des textes créatifs et des poèmes sur l'humain et sur le leadership. Dans les épisodes que vous écoutez de l'art d'être humain, bien, je crée. Des musiques, des silences, des petits bouts de cœur là-dedans. Je rejoue du violon aussi, après quelques décennies de pause, juste pour sentir à nouveau le monde vibrer sous mes doigts. Je gratte la guitare, je chante avec mon amoureux parce que la joie se ferait toujours un chemin quelque part. Revenons à notre question. Comment serait le monde des affaires, nos organisations, si on laissait de la place à notre artiste intérieur, si on laissait plus de place à la beauté? Eh bien, je pense que les artistes sont entraînés, peut-être consciemment ou sans le savoir, à exactement ce qui manque au leadership contemporain. Je m'explique. L'art développe ce qui se transpose directement dans d'autres sphères. Je parlerai d'abord de présence incarnée. Premièrement, la présence, parce que quand on joue un instrument, moi je l'expérimente au violon, quand on est trop dans notre tête, ça sonne faux. Quand on force, ça se crispe. Si on anticipe trop, on perd le fil. On est comme obligé d'être toute là, d'être présent. Pareil dans le leadership, c'est la même chose. Écouter vraiment, sentir quand la tension monte, capter les signaux faibles, ajuster. L'art entraîne une espèce d'intelligence somatique. Alors, deuxièmement, et je vais prendre l'expérience que je connais avec le violon, mais faites-moi des retours d'expérience. Dites-moi si vous ressentez la même chose avec vos instruments ou avec vos arts, les autres arts que la musique. Alors, au violon, s'il y a trop de tension, l'archet, par exemple, est trop dur, si moi, je suis trop tendue, bien, le son ne sera pas le même. Le corps va se fatiguer aussi. Alors, c'est comme si la qualité du son vient d'un certain équilibre entre notre engagement, le musculaire, et un certain relâchement. C'est comme une performance, mais détendue. Alors, la posture du leadership juste, est-ce que ça ne serait pas ça? Engagé, responsable, performant, mais pas tendu. Agile, flexible. C'est comme si les artistes savent dans leur corps que trop de tension détruit la qualité. Troisièmement, quand on apprend la musique, l'erreur, ce n'est pas une faute morale, c'est une ouverture. T'sais, on n'arrête pas nécessairement de jouer parce qu'on a raté une note, on rattrape, on compose avec. On improvise un peu si on est capable de faire ça, on continue. Ça développe la souplesse, la capacité d'ajustement. Mais dans le leadership, c'est peut-être exactement ce qui nous permet aussi de traverser l'incertitude, d'apprendre, de corriger quelque chose et de poursuivre. Quatrièmement, je dirais l'écoute fine. Quand je commence un nouveau morceau au violon, là, je ne joue pas tout de suite. J'écoute d'abord. J'écoute d'autres qui ont joué le morceau avant moi. J'écoute même intérieurement à quoi ça ressemble pour moi. Il y a beaucoup d'écoute. C'est pas que je joue tout de suite, j'écoute d'abord. Et bien, parfois, on joue avec d'autres, alors on écoute les autres, le tempo, l'espace, les silences. On joue pas contre les autres, on joue avec les autres. C'est comme une école. Quand j'étais petite, j'étais dans un petit orchestre avec des collègues, avec des étudiants, étudiantes comme moi qui jouaient les cordes aussi. Et on apprend vraiment une coopération réelle, comme une co-régulation aussi. Alors, voilà, de la reliance, de l'accordage, si on veut. Cinquièmement, ce qui m'est venu, c'est peut-être, là, je dirais, un rapport sain à la discipline, parce que On pourrait croire que les artistes n'en ont pas. Bon, l'art, c'est faire ce qu'on veut, c'est pas avoir de structure, mais au contraire, devenir bon dans l'écriture, devenir bon dans le violon, pour moi, par exemple, c'est beaucoup de persévérance, c'est de l'apprentissage, c'est de beaucoup, beaucoup de pratique, répétition, engagement, de la patience, d'humilité, tout ça. Mais c'est une discipline qui est au service du vivant, c'est pas du contrôle. Alors, c'est aussi, je vois ça dans le leadership, le rapport sain à la discipline. Et la sixième et dernière chose qui m'est venue, c'est la capacité à habiter la complexité sans la simplifier. Quand on lit une partition, là, tu sais, une œuvre d'un compositeur, c'est jamais totalement clair. Tu sais, qu'est-ce qu'il voulait faire vivre par cette œuvre? C'est jamais totalement maîtrisé, c'est même jamais totalement stable. On ne peut pas la jouer nécessairement tout le temps de la même façon. Et pourtant, elle se tient. Fait que c'est comme si, je dirais, les musiciens vivent avec cette ambiguïté, cette nuance, avec l'inachevé. Et bon, je dirais que c'est exactement ce que demande notre monde actuel. Je ne sais pas pour vous, mais plus j'avance là, dans ce que je vous dépose en lien avec cette question de laisser plus de place à l'artiste intérieur dans nos organisations et le monde des affaires, plus je me rends compte que la vraie réponse à ça, c'est pas « ben on serait plus créatif ». La vraie réponse, c'est « on serait capable davantage de plein de choses », comme rester présent sous pression, performer sans se crisper, décider sans tout contrôler, mieux naviguer les nuances et l'ambiguïté. Alors, je dirais que notre artiste intérieur, il n'est pas seulement souhaitable. Vu l'état du monde, je dirais qu'il est nécessaire. L'art, ce n'est pas un échappatoire. C'est une façon d'habiter la vie, c'est une façon de créer de la beauté. Et la beauté, on pourrait penser que c'est un luxe, un nice to have, quelque chose qu'on se permet quand tout le reste est réglé, quand les objectifs sont atteints, quand les KPI sont ouverts, quand on a le temps. Mais je pense qu'on a compris tout à l'envers. La beauté n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Pas parce qu'elle est utile, pas parce qu'elle est productive, pas parce qu'elle génère des résultats mesurables, mais précisément parce qu'elle refuse de se justifier. Alors, dans un monde obsédé par l'utilité, la performance, par le ROI, faire exister quelque chose juste pour sa beauté, c'est un acte de rébellion radicale. C'est dire que certaines choses ont de la valeur simplement en existant, qu'elles n'ont pas besoin de servir à quelque chose, qu'elles ont juste besoin d'être. Et c'est exactement ce dont nous avons besoin, tous, même les plus rationnels, les plus sceptiques, surtout eux. Parce que quand on a passé des années à tout justifier, à tout optimiser, à tout mesurer, à tout rentabiliser, on oublie qu'on a le droit d'exister sans justification. Hélène Dorion, poète, a publié ceci cette semaine. Ouvrez les guillemets. « Au milieu de l'intense chaos du monde, les mots de François Cheng m'accompagnent. » Je réouvre les guillemets. « Tant qu'il y aura une aurore qui annonce le jour, nous nous attarderons sur cette terre si souvent dévastée et nous persisterons dans ce geste humain qu'est l'art. » Et je referme les guillemets. Alors, en 2026, moi, Pascal, me déclare artiste. Et là, vous allez rire. Certains d'entre vous allaient dire, « Ben oui, on te savait déjà artiste. » Mais c'est une chose d'être vu là-dedans et de se légitimer soi-même. Alors, en 2026, je me déclare artiste. Et je choisis de faire entrer la beauté là où on ne l'attend pas. Surtout là où on ne l'attend pas. Et sur cette note, je vous offre un texte créatif que j'ai créé pour vous. Une invitation à me rejoindre dans cet univers cette année. Je fais entrer la beauté, pas pour être admirée, pas pour être comprise, pas pour être applaudie. Je la fais entrer parce qu'elle est nécessaire. Je la fais entrer partout. Même là où on me dit que ça n'a pas sa place, même là où on me dit que c'est trop, même là où on lève les yeux au ciel. Parce que même les personnes les plus endurcies, même celles qui glorifient la performance, même celles qui ne jurent que par l'efficacité, ont besoin de beauté. Elles ne le savent peut-être pas encore. Elles ne le nommeront peut-être jamais. Mais elles en ont besoin quand même. Parce que la beauté fait quelque chose que rien d'autre ne peut faire. Elle nous rappelle que nous sommes vivants. Elle nous reconnecte à ce qui compte vraiment. Elle nous sort de la course pour un instant. Elle nous permet de respirer. Et dans un monde qui nous demande sans cesse de performer, d'optimiser, de produire, respirer est déjà un acte de résistance. Alors je résiste. Pas par agressivité, pas avec rigidité, pas avec moralisme, je résiste par la beauté. Je mettrai de la poésie sur LinkedIn. Je ralentirai dans un monde qui accélère. Je nommerai ce qui n'a pas besoin d'être utile. Je ferai exister des choses juste parce qu'elles sont belles. Sans permission, sans justification, sans excuse. Parce que la beauté n'a pas besoin de permission. Elle a juste besoin qu'on lui fasse de la place. Même là où on ne l'attend pas. Surtout là où on ne l'attend pas. Alors cette année, je fais de la place pour ce qui est beau, pour ce qui n'a pas besoin d'être utile, pour ce qui existe juste pour exister. C'est mon acte de résistance, c'est ma liberté, c'est mon intention pour 2026. Faire entrer la beauté là où on ne s'y attend pas, sans qu'elle ait besoin d'être vue, comprise ou appréciée, juste parce qu'elle est nécessaire. Et si vous levez les yeux au ciel en entendant ça, je vous dirai que même les grincheux ont besoin de beauté. Je suis artiste et intervenante et leader et intello et créatrice et stratège. Je n'ai pas à choisir. Quand une femme dit « je suis artiste » après des années à être reconnue pour sa tête, son rôle, sa rigueur, ce n'est pas une coquetterie. C'est un acte de souveraineté. Artiste. Le monde adore faire choisir. Je refuse. Je choisis de ne pas choisir.
Parce qu'on veut, j'aurais voulu être un artiste. Pour pouvoir